loué et remercié, soit notre Dieu pour sa grâce et sa fidélité, aussi pour ce moment et cette heure que nous pouvons vivre. Nous avons, n'est-ce pas, déjà entendu des choses précieuses hier soir, la parole merveilleuse de ce que Dieu a préparé pour son peuple. Comment est-ce qu'il s'est révélé dans sa gloire, brièvement, seulement pour un temps, mais nous l'avons entendu, il s'est révélé ensuite en Jésus-Christ, en Christ Jésus, en tant que le véritable, dans le reflet de sa gloire. Et il a ôté le voile, et le voile s'est déchiré d'une manière que chacun a l'accès et peut avoir accès. Et nous l'avons entendu ce matin et cet après-midi, aujourd'hui, comment est-ce que Dieu s'efforce à nous appeler, à sortir pour que nous puissions venir à lui en tant que le Père, en tant que, comme Père, en tant que celui qui donne des dons parfaits, en tant que Père, comme Père, qui donne à ses enfants des dons et qui crie à ses enfants, mais alors à ses fils et ses filles qui crient à lui nuit et jour. Oui, il leur répond et que nous puissions continuer à nous tenir, à nous mettre à sa disposition pour qu'il puisse nous tenir par la main et nous conduire, nous saisir par la main et nous conduire. Avant que nous allons continuer à écouter, je crois que nous allons continuer à écouter ce qui a été commencé hier soir. Je le pense, quoi qu'arrive, ce sera bien. Nous voulons le recevoir de la part, comment est-ce que Dieu nous le donne. Mais je pense que ce sera la continuité de ce que nous avons entendu hier soir. Mais avant la prière, je voudrais lire une parole d'Hébreu. Hébreu, le chapitre 12, quelques écritures, et encore aussi du chapitre 13. Hébreu chapitre 12, je commence avec le verset 18. Ici, le Seigneur, par l'apôtre Paul, parle et dit, « Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. » Tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Maintenant, le verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrit dans les cieux, en allemand, de la sainte convocation, fête solennelle. Donc, de l'assemblée des premiers-nés, inscrit dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Ensuite, dans le chapitre 13, je voudrais encore lire quelques écritures. Ici, l'apôtre Paul continue et écrit à partir du verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Levons-nous pour la prière. Père Céleste, nous te remercions pour ces moments de grâce. Nous venons tous de nouveau ici nous rassembler dans l'espérance en regardant à toi et en nous attendant à ce que tu nous bénisses et que tu nous accordes ta parole. Nous te remercions pour la possibilité que nous accordes encore. Nous ne savons pas combien de temps cela durera encore, mais nous voulons, Seigneur, racheter le temps et saisir les heures qui nous sont accordées pour te louer, pour t'honorer. Ensemble, nous voulons te rendre grâce. Accorde-nous ta parole, accorde-nous des oreilles ouvertes, des cœurs ouverts, des vases que tu peux remplir, que nous puissions l'être comme nous l'avons chanté, être ces vases-là que tu peux remplir. Accorde ta grâce, Seigneur, et fortifie-nous tous. Fortifie aussi, Seigneur, et bénis les lèvres par lesquelles tu veux parler, Seigneur. Nous te remercions dans ton précieux nom, Seigneur Jésus. Amen. Nous nous asseyons. un shalom fraternel, cordial, que la paix de Dieu soit avec vous, je vous souhaite cela. Heureux les hommes qui ont la paix avec Dieu. Un cantique le dit, quand la paix avec Dieu pénètre mon âme, alors mon cœur crie de joie et exalte. Et ça, nous le souhaitons à tous ce soir, que cette paix qui surpasse toute intelligence, qui dépasse nos pensées, qui est au-delà de nos pensées, que cette paix puisse gouverner nos cœurs et nos pensées et nos sentiments. Gouverner. Je voudrais souhaiter à tous la bienvenue de manière très fraternelle, nos frères et sœurs de l'Autriche, de la Suisse, de la France, de la Belgique, et nos bien-aimés frères et sœurs de la Finlande et de l'Union soviétique, et notre frère de Téhéran, et pas pour oublier nos frères et sœurs de la République démocratique de l'Allemagne. Pour nous, cette parole est un peu étrange, la République démocratique de l'Allemagne. Ici, à l'ouest, c'est la démocratie, et là-bas, ils font comporter le nom, à l'est de l'Allemagne. Mais le terme a été confondu. Qu'est-ce que nous pouvons en faire un jour? Tous les royaumes de ce monde seront en ruine, et le Seigneur, en tant que roi, règnera comme roi, et nous avec lui. Et alors, le choix est pris pour toujours. Et nous pouvons dire que nous avons reçu un grand héritage. Tant que nous sommes encore ici sur cette terre, nous avons à nous soumettre à toutes choses telles que les choses sont en ce moment. Que Dieu, le Seigneur, puisse nous bénir encore ce soir. Pour moi, hier soir et aujourd'hui matin, ce matin et cet après-midi, les réunions étaient pour moi comme une baume. C'était agréable, agréable. Le Seigneur a vraiment parlé avec nous. Combien peuvent dire amen à cela? Sûrement tous ceux qui étaient ici. C'était quelque chose de très merveilleux. Je me sens bien sûr corporellement un peu affaibli. Vous ne pouvez pas peut-être vous représenter cela ou bien vous imaginez cela entièrement. Mais quand on a entrepris un voyage aussi extensif, passer d'un climat à un autre, et que je n'ai même pas pu dormir ou bien en grande partie à moitié, et de nouveau, je suis de nouveau tendu au lieu de pouvoir ensuite se reposer. Et cela continue comme ça, toujours un plein programme. Et parfois, j'envie les pasteurs qui tiennent une prédication, qui lisent une prédication le dimanche et qui peuvent se reposer toute la semaine, si ce n'est qu'il y ait un enterrement. Et alors, ils seront de nouveau dérangés dans leur repos. Mais nous voulons nous mettre à disposition de notre Dieu. Arrive quoi qu'arrive. Nous avons, n'est-ce pas, mis notre main à la charrue et nous ne regardons pas en arrière, mais allons de l'avant, regardons devant nous et remercions Dieu notre Seigneur qui, dans sa grâce, nous a vus et nous a attirés à lui. Donc, nous voulons que tous se sentent bien. Et si quelqu'un n'est pas bien traité, qu'il puisse me le laisser savoir. Nous voulons que tous soient bien servis comme il faut et que j'espère que vous êtes satisfaits. Je crois que l'ai dit ce matin, mais cet après-midi, nous voulons le cantique, nous voulons faire du cantique numéro 7, être le cantique conducteur de nos réunions pendant ces jours dans lesquels nous sommes. Seigneur, tu as fait de grandes choses ici à nous, prosternés dans la poussière, nous t'adorons. Et si cela vous est accordé, ouvrez vos cœurs. Je ne dois pas l'oublier. Nous l'avons lu dans le deuxième couplet du cantique. Toi, la tête, toi, la couronne de tes enfants, tu te révèles sans te cacher à quiconque croit. Tu marches parmi les tiens ici pour que chacun qui est sauvé expérimente ta présence personnellement. Nous ne voulons pas seulement l'avoir chanté, mais de tout notre cœur le croire et nous attendre à ce que cela aussi soit manifesté parmi nous comme dans le cantique. Hier soir, nous avions parlé du sujet que Moïse voilait sa face, voilait son visage. Et dans le Nouveau Testament, nous l'avons lu de 2 Corinthiens et nous avons aussi de la prédication de Frère Branham, nous l'avons cité. Si ce soir, nous continuons avec le même sujet, alors je vous demande d'écouter dans la prière tous et de demander et de supplier Dieu qu'il puisse nous révéler et nous accorder et nous transmettre ce que nous avons à apprendre de cette prédication et ce qu'il, très personnellement, il veut nous dire par cette prédication. Ce qui s'était passé avec Moïse, nous l'avons lu. Ce qui s'était passé avec le peuple d'Israël, nous en sommes aussi informés sur le commencement de l'Église du Nouveau Testament, sur les 4 évangiles, les actes d'apôtres, les épîtres et ensuite l'Apocalypse. Nous sommes aussi informés en grande partie de l'histoire de l'Église, comment est-ce que l'Esprit de Dieu tout de nouveau a commencé à agir dans les différents âges et comment est-ce que les vérités bibliques ont été faites connaître, ont été révélées. Mais maintenant, nous vivons dans une époque particulière, dans un âge prophétique dans lequel des prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux et deviennent une réalité. Et c'est pour cette raison que c'était nécessaire que la parole prophétique soit placée sur le chandelier et liée avec cela aussi la révélation de Jésus-Christ. Vraiment, qu'elle soit accordée à ceux qui s'approchent de Dieu. Laissez-moi lire 3 écritures bibliques, 3 versets bibliques, et ensuite nous allons continuer à lire certaines déclarations, plusieurs déclarations dans la prédication de Frère Branham. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, à partir du verset 6. Car Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres, c'est le même qui a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Le même Dieu qui avait ordonné et avait dit que la lumière soit, c'est le même Dieu qui nous a accordé la lumière dans nos cœurs pour que nous puissions reconnaître la gloire de Dieu sur la face de Christ, la voir et la reconnaître. Comme nous l'avons dit partout et annoncé partout, Dieu ne s'est pas révélé dans une religion, non plus dans la nature en tant que rédempteur dans la nature, non. Mais personnellement, il s'est manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cela est l'unique révélation personnelle de Dieu ici sur terre. Nous allons voir que Dieu, par les prophètes, parlait, mais que c'est en Christ qu'il l'a pris forme et qu'il nous a rachetés. Hébreux, le chapitre 1, au verset 1 jusqu'au verset 3. Hébreux, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel, par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa nature, de sa personne. En allemand, de sa nature. L'expression de sa nature. Et il soutient toute chose par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite. En allemand, il a accompli. Il a accompli la purification des péchés et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ensuite, dans Hébreux chapitre 9, à partir du verset 11. Hébreux 9, verset 11. Et avec cela, nous venons déjà au sujet de hier soir. Hébreux chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son sang, avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui en vertu de l'Esprit éternel s'est offert lui-même, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Prions. Père céleste, nous avons lu cette parole et nous voulons qu'elle devienne qu'elle puisse devenir une réalité, que nous puissions expérimenter personnellement ce que tu as préparé pour nous. Seigneur, tu vois mon état corporel. Je te demande de bénir ta parole, d'être proche de nous, d'être présent et de nous faire grâce. Accorde-nous une faim envers toi pour t'expérimenter, une faim de t'expérimenter comme jamais auparavant, pour que tu puisses répondre à nos besoins, à nos désirs et te manifester, te révéler comme autrefois dans les temps bibliques. Bénis-nous maintenant de la plénitude de ta grâce dans le saint nom de Jésus. Amen. De cette prédication, le Dieu dévoilé, nous avons hier soir lu et nous avons constaté que dans l'Ancien Testament, le voile était sur le visage, avait été mis sur la face de Moïse, et que dans le Nouveau Testament, c'est en Christ que ce voile a été ôté et que nous pouvons voir la gloire de Dieu, oui, vivre la gloire de Dieu, expérimenter la gloire de Dieu et être enveloppé dans cette gloire, personnellement. Si nous voulons résumer cela, alors nous pouvons dire que les images de l'Ancien Testament sont devenues se sont rapprochées toujours plus de la réalité, Et quand le dernier prophète Malachi, 400 ans avant le commencement du Nouveau Testament, a prononcé ses prédictions, tous attendaient que s'accomplisse ce que Dieu, par la bouche de ses serviteurs et prophètes, avait annoncé à l'avance. Subitement, cela était là. La parole qui, par la bouche des prophètes, avait retenti est devenue, en tant que parole de la promesse, qui a été ensuite accordée à Marie. Elle a cru la parole de la promesse et l'Esprit l'a couvert de son ombre. Et c'est ainsi que le Fils de Dieu naquit. C'est comme ça que le Nouveau Testament a commencé. C'est comme ça que l'accomplissement du plan du salut de Dieu avec l'humanité a pris son cours. Et nous voyons que maintenant nous vivons des choses semblables. Tous les prophètes et les apôtres et le Seigneur, ils ont parlé de ce jour dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et ils ont désiré voir ces choses accomplies dans leur temps déjà, et ils ne l'ont pas vu parce que le temps n'était pas arrivé pour cela. Maintenant, toutes les promesses deviennent une réalité. Et nous nous approchons toujours plus proche de la fin, toujours plus proche. Et si nous voulons parler avec la parole prophétique, alors déjà dans l'Ancien Testament, ils ont parlé de cela, que le jour du Seigneur viendra, dans lequel le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et le jour du Seigneur viendra, qui brûlera comme un four. Donc le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Et la même chose a été dite dans le Nouveau Testament. Mais avant que ce grand jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne, Dieu voulait envoyer un prophète. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dirait, j'ai tenu ma parole et je l'ai envoyé. Et j'ai envoyé ce prophète et heureux tous ceux qui l'écoutent. Mais si déjà nous sommes en train de parler de cela, que justement les choses doivent prendre leur cours, les choses que Dieu a annoncées à l'avance. Alors je vous demande d'observer, d'être attentif, de remarquer deux versets, le premier de Matthieu 24 et l'autre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Dans Matthieu, le chapitre 24, le Seigneur parle du signe des temps, de la fin des temps, de guerre et de cris de guerre et de tremblements de terre et tout ce qui, n'est-ce pas, a arrivé sur la terre. Et ensuite, il y a une seule et unique phrase. Tout cela est seulement le commencement des douleurs. Même pas la fin. Seulement l'introduction, l'annonce, les douleurs. Même pas la chose elle-même qui doit apparaître, qui pénétrera, qui deviendra visible. Mais déjà, les douleurs d'enfantement, de l'enfantement, les douleurs qui commenceraient et qui ont commencé. Paul, en tant que l'apôtre et prophète du Nouveau Testament, regardait pas au commencement de cette fin des temps, mais il regardait à la fin. Et disait, quand Ils diront, maintenant règne la paix et la sûreté. Alors, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs surprennent une femme enceinte, et sûrement qu'ils n'échapperont pas. Les deux vont ensemble. L'introduction de ces choses pour que nous puissions reconnaître, et aussi ça, notre Seigneur lui-même le dit dans Luc, le chapitre 21, quand vous verrez toutes ces choses arriver, que cela commence à arriver, quand vous verrez que tout cela commence à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Nous avons vu plusieurs choses arriver, écouté et même vécu certaines choses personnellement. Mais complètement à la fin, tout à fait à la fin, là il est écrit paix et sûreté. Concernant la paix, ils diront paix et sûreté. Est-ce que nous ne remarquons pas dans notre temps comment est-ce que grands et petits, tous veulent la paix, tous veulent la sûreté et tous s'arment comme jamais auparavant. J'avais lu il y a longtemps déjà que la terre pourrait être détruite 21 fois avec ce qui existe en ce moment comme armement. Ça suffit qu'une seule, qu'une terre soit détruite une seule fois, donc qu'elle soit en ruine une seule fois. Mais pour que l'Écriture s'accomplisse, il faut que toutes ces choses arrivent pour que les grands puissent tous s'asseoir à une seule table pour négocier une paix qui sera seulement une apparence de, qui pourra seulement qu'être qu'une apparence de paix et qui sera qu'une apparence de paix. Car tout ce qui est fait sans Dieu ne peut pas subsister. Mais quand, tout ce qui est fait sans Dieu, mais quand ils diront, maintenant nous avons la paix et maintenant nous avons le repos et la sûreté. Et là je vous dis que tout est en train d'aller vers cela. Et cela, ils arriveront à cette union, à cette unité. Ils vont, n'est-ce pas, devoir produire cette unité parce qu'ils ont peur. Ils ont tous peur l'un de l'autre et chacun sait que personne n'a la chance de survivre. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous regardons tout cela avec une vue claire. Et si aujourd'hui, ici, il est dit que nous savons mieux les choses que tous les politiciens, alors cela n'est pas exagéré. Alors nous ne sommes pas assis parmi ceux qui donnent des conseils, qui eux-mêmes sont sans conseil, mais nous sommes assis sous le coup de la parole de Dieu et nous avons été enseignés par Dieu sur, donc concernant ce qui doit se passer à la fin des temps et se passera à la fin des temps. Et là, tous les croyants peuvent prier que cela ne vienne pas, que cela n'arrive pas, mais cela arrivera quand même, parce que c'est ainsi que c'est écrit. 2 Pierre, chapitre 3, au verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Personne pourra empêcher cela, car la bouche du Seigneur l'a prononcé, et cela reste ainsi valable, et c'est ainsi que ce sera. Mais avant que cela frappe la terre, arrive sur la terre, le Seigneur veut préparer son Église. Il veut se révéler à nous. Il veut ôter le voile pour que nous puissions reconnaître le Seigneur Jésus-Christ en tant que ce qu'il est réellement. Réellement. Maintenant, je viens à ce qui est écrit dans cette prédication et je voudrais lire plusieurs déclarations. Citation. Moïse vint de la présence de Dieu. Il était allé dans cette parole. La parole a été écrite et il était dans la présence de Dieu avec cette parole. Il avait la parole pour cette époque. Vous savez que il y a une parole pour chaque âge. Alors que Moïse revint, son visage resplendissait. Voyez-vous, la parole était en lui, prête à être révélée, manifestée. La parole véritable était prête, avait été apportée et prête à être transmise au peuple. Dieu l'avait écrite et elle était avec Moïse. Moïse avait pour eux la parole. Il avait la parole vivante pour le peuple. C'était seulement caché, voilé. La parole était cachée, voilée. Et Moïse devait mettre un voile sur sa face, sur son visage. Restons d'abord ici. Un moment. Moïse n'était pas seulement récepteur de la parole. Il était porteur de la parole. Il avait part à la promesse que Dieu avait donnée. Et si nous rapportons cela à notre temps, autrefois, Dieu avait dit à Abraham, après 400 ans, je ferai sortir ta descendance de la servitude. Et quand ce temps fut arrivé, Dieu a eu un homme qui est né dans ce monde, pas seulement pour manger et boire, pas seulement pour avoir été ici sur terre, mais pour faire, pour que par lui l'histoire du salut soit faite. Moïse, un homme de Dieu, vu extérieurement, il s'était une fois oublié et il avait frappé un Égyptien. Il avait ensuite caché sous le sable. Il a regardé à droite, à gauche, parce que personne l'ait vu. Et le prochain jour, il a fui. Et nous pourrions déjà nous arrêter ici et dire, mais s'il te plaît, Dieu, tu aurais dû savoir cela à l'avance. Que cet homme était un meurtrier et qu'il ne peut pas comme ça, un meurtrier, ne peut pas comme ça ensuite apparaître en tant que prophète plus tard. Mais Dieu connaît toutes choses à l'avance. Avant même notre naissance, avant même que nous ayons fait quelque chose, Dieu, lui, il a connu tout le déroulement de notre vie. Il a su à l'avance. Et il aurait été mal conseillé s'il devait attendre pour savoir ce qui allait arriver. Dieu a su toutes choses à l'avance. Le temps de Dieu était arrivé, l'heure avait frappé, le prophète était là, la parole révélée était là pour cette heure de l'époque, pour ensuite révéler au peuple de Dieu les promesses que et apporter au peuple de Dieu les promesses que Dieu avait données du temps d'Abraham à Abraham. Pour moi, c'est comme un fil rouge qui s'étend sur la prédiction de l'histoire du salut. Pas seulement une prédication sur Abraham, sur Moïse, ou bien sur les prophètes. Mais par les révélations divines, nous sommes ravis dans ce que Dieu a révélé aux prophètes. Et nous avons part à ce qu'ils avaient reçu et annoncé à l'avance. En Moïse, c'était la parole. Il était porteur de la parole et il expérimentait personnellement les promesses que Dieu avait données avec tout le peuple. Les promesses que Dieu avait données à Abraham. Et nous voyons qu'à l'époque, la lumière vint parmi le peuple de Dieu. Les Saintes Écritures disent clairement que sur toute l'Égypte, une telle obscurité vint, des ténèbres, à tel point qu'on pouvait les saisir. Mais là où Israël était, à Gozen, il y avait la lumière claire. C'était le contraste. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, les peuples. Et alors Paul écrit de nouveau dans 1 Thessaloniciens, dans l'épître de 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Vous, frères, ne marchez pas dans les ténèbres pour ne pas que ce jour-là vous surprenne comme un voleur dans la nuit. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Et pourquoi est-ce qu'il nous dit, cela? Vous, bien-aimés frères, ne soyez pas dans les ténèbres. 1 Thessaloniciens 5, verset 4. Parce qu'il savait très bien que le prophète Zacharie avait dit, il avait prophétisé qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. L'Église va jusqu'à l'heure de minuit. Et ensuite, le cri retentit, voici l'époux vient. Le jour de la grâce a eu son commencement. Il prit son cours. Il a atteint le temps du soir. Et il était prévu qu'il atteigne minuit. La lumière vint au temps du soir afin que nous puissions trouver le chemin éclairé par la parole révélée prophétiquement dans ce monde obscur. C'est la pensée que Dieu voulait exprimer. De nouveau, pas pour se disputer sur un enseignement sur lequel on peut se disputer, mais il s'agit d'une expérience personnelle que nous faisons avec Dieu. La lumière, lui dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reconnu. Si nous marchons dans la lumière, alors nous avons communion avec Dieu. D'un côté, la parole était révélée à Moïse, ou bien alors révélée par Moïse. Elle fit connaître par Moïse, mais d'un autre côté, cachée. Révélée aux uns, cachée aux autres. Ensuite, il est écrit ici, « Ô frère, vous allez peut-être accepter cela comme une offense. Mais, comme Paul dans 2 Corinthiens 3, du verset 13 au verset 18, il dit que Moïse devait voiler son visage parce que la gloire qui se reposait sur son visage était si grande qu'elle éblouissait le peuple. Combien plus elle le fait maintenant? Elle le fait maintenant. Vous savez ce qui peut arriver quand on marche contre la lumière avec force. Plus forte est la lumière, et plus fort on peut être ébloui par la lumière. Si nous allons contre la lumière, et beaucoup dans cette génération s'étonnent de cela. Avez-vous déjà essayé cela? Allumez les phares de votre voiture et essayez de regarder dans les phares. Vous ne pourrez pas. Vous ne le pourrez pas. On ne doit jamais aller contre la lumière. On doit toujours aller avec la lumière, dans la direction de la lumière, pour voir le chemin, pour être éclairé sur son chemin. Celui qui va contre la lumière est aveuglé. Mais celui qui marche dans la direction que montre la lumière, il est éclairé, il a une lampe, il est éclairé, et il peut marcher sur le chemin dans l'obscurité. Et c'est ainsi que dans ce temps, nous pouvons marcher, aller avec la lumière que nous avons reçue, et avec la parole révélée et la volonté de Dieu révélée. Heureux l'homme qui a compris cela dans ce temps. Ça veut dire que Dieu lui a fait grâce et continuera à le faire. Il est encore écrit, considérez que c'était une gloire naturelle, car c'était une loi naturelle qui était périssable. Des personnes spirituellement aveuglées, cette gloire devait disparaître. Mais cette gloire ici est impérissable. Moïse avait autrefois la loi charnelle de la condamnation. Il n'y avait pas de grâce dans la loi. Elle a fait que condamner. Il n'y avait pas de pardon. La loi leur disait ce qu'ils étaient. Mais celle-ci ici vous donne un chemin vers la liberté. Lorsque cette parole est révélée, oh, quel visage elle aura. Elle doit rester voilée. Maintenant, remarquez que l'esprit est voilé dans un temple humain. Moïse prononçait les paroles naturelles, couvert d'un voile naturel. Mais Paul, ici, parle dans 2 Corinthiens 3, au verset 6. Dans ce sens ici, il parle de la parole de l'esprit. Ce sont des serviteurs. Ce n'étaient pas des serviteurs qui étaient serviteurs de la lettre de la loi, mais des serviteurs rendus capables selon l'esprit. Ça veut dire que l'esprit prend la lettre et la vivifie. C'est exactement ce qui s'est passé pendant ces jours. La parole a été prise par l'esprit et a été vivifiée par l'esprit en tous ceux qui, dans la foi, l'ont reçue. Et si Paul, ici, dit clairement que si notre prédication est restée cachée, elle est restée cachée et voilée pour ceux qui périssent, mais pas en ceux qui sont sauvés. Et le Seigneur disait autrefois, le Fils de l'homme est venu pour que ceux qui voient deviennent aveugles et ceux qui sont aveugles voient. Et les scribes se sont demandé l'un à l'autre, mais est-ce qu'il veut dire par là que nous sommes aveugles? Et il disait, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais par ce que vous pensez voir, vos péchés demeurent. Tous les hommes qui déjà pensent de pouvoir instruire et enseigner Dieu et savoir toutes choses, à ces gens-là, les choses n'iront pas bien pour eux, pour ces gens-là. Mais si dans l'humilité, devant la face de Dieu, nous venons et disons, Seigneur, enseigne-nous, instruis-nous, nous voulons te connaître, connaître ta parole, connaître ta volonté. Déjà, Dieu se rapproche de nous. Il résiste aux orgueilleux et accorde aux humbles la grâce et fait grâce aux humbles. Et cette humilité, nous en avons besoin tous. Vous savez, dans le ministère de Frère Branham, n'est-ce pas comme pour dire, il y a eu une division qui a été faite exactement comme avec le Seigneur et avec les prophètes. Notre Sauveur disait, je suis venu dans ce monde pour mettre la division. Matthieu 10, verset 35. Il faut qu'une décision soit prise. Qui se tient du côté de Dieu et qui se tient de l'autre côté. Ici, il est dit encore, si cela était voilé par un voile naturel, ceci est voilé par un rideau spirituel. N'essayez pas de regarder le naturel. Passez, donc entrez dans l'esprit et voyez où vous êtes. Et reconnaissez l'heure dans laquelle vous vivez. Est-ce que cela est compréhensible pour vous? Nous ne devons pas seulement regarder aux choses extérieures, mais par l'esprit reconnaître ce que Dieu fait maintenant et pénétrer, percer et entrer à l'intérieur de ce que Dieu fait. Ici, il dit encore, est-ce que vous ne pouvez pas comprendre et voir que vos traditions sont un voile pour vous, par lesquelles vos traditions font en sorte que Dieu reste voilé pour vous. Si c'est comme ça, toutes sortes de traditions, de coutumes, comme c'était autrefois dans le judaïsme, ils savaient quand est-ce qu'ils devaient laver leur vase, à quel point ils devaient aller, ce qu'ils avaient le droit de faire dans le sabbat, ou bien pas le droit de faire, et combien de psaumes ils devaient chanter. Mais le Seigneur vint chez les siens, et les siens n'ont pas reconnu. Et aujourd'hui vient quelque chose, maintenant, suit quelque chose de très particulier. Un frère parle à Frère Branham. Frère Branham, il y a une chose que j'ai contre toi. Tu essayes de faire en sorte que les gens croient. Tu essaies d'amener les gens à croire qu'ils vivent dans un apostolique et tu veux les amener à vivre comme dans l'âge apostolique. Mais l'âge apostolique avec les apôtres a cessé d'exister. J'ai demandé alors, est-ce que cela est vrai? Il a répondu oui. Alors je lui ai dit, mais qui était leur conducteur autrefois? Il a dit, les 12 apôtres. J'ai dit, donc Paul était exclu. Le jour de la Pentecôte, c'était Pierre, le conducteur, et lui en tant que Pierre. Et quand ils ont vu l'Esprit de Dieu agir, il a dit, Pierre a dit, car cette promesse est à vous et à vos enfants et à tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Donc, s'il appelle encore aujourd'hui, alors la même promesse est valable pour tous ceux qui sont appelés par lui aujourd'hui. Quand est-ce que l'âge apostolique alors a cessé? L'âge apostolique cessera quand Dieu arrêtera d'appeler. Cessera d'appeler. Avons-nous compris cela? Dieu ne change pas sa parole. Dieu ne change pas son plan. Heureux ceux qui peuvent s'introduire dans ce plan, se laisser insérer dans ce plan. Est-ce que nous attendons à ce que Dieu répète, nous laisse revivre les actes des apôtres? Amen. Moi, je m'attends à cela. Je m'attends à 100% à ce que Dieu nous fasse revivre les actes des apôtres. Que Dieu nous accorde une répétition des actes des apôtres. Et dans le silence, je repasse encore une pensée dans mon cœur. Que ce que Dieu va faire sera encore plus puissant. Va aller au-delà même. Et sera encore plus glorieux de ce que nous pouvons lire dans les actes des apôtres. Alors quelqu'un pourra peut-être dire, mais si Paul était ici aujourd'hui, alors moi je pourrais croire. Ou bien alors si Pierre était ici, alors je pourrais aussi croire. Et alors, et ceux aussi qui ont une relation personnelle particulière avec le ministère de Frère Branham, ils diront alors, oh si Frère Branham était ici, alors nous pourrions aussi tous croire qu'il n'y a aucun effort. Il n'y aura pas eu de problème. Hein? Même la chaise sur laquelle nous sommes assis pourrait aussi croire, n'est-ce pas? Mais qui était Paul? Et qui était Pierre? Et qui était Frère Branham? Et qui sommes-nous? Ils étaient tous des vases que Dieu a remplis, que Dieu a utilisés, que Dieu a bénis. Qui étaient les hommes? Les 120? Qui étaient les 3000? Qui étaient les 5000? Qui étaient ces hommes? C'était des croyants, des gens qui avaient cru. Et à la fin, aucun culte sera rendu à un homme. Et ce ne sera pas le grand homme et le prophète particulier, ou bien un homme de Dieu particulier. Non, mais ce sera le grand Dieu qui, par tous les prophètes, a parlé. Et qui s'attend seulement à ce que cette heure de Dieu arrive, que son heure arrive. Et qu'il puisse permettre que cela arrive bientôt. Si je regarde à moi-même, je suis un peu en souci. Mais quand dans la foi, je regarde au Seigneur et à ses promesses, alors je suis sans souci, sans inquiétude. Et je sais que Dieu a toutes sortes de moyens et qu'il peut fortifier les faibles. Et ceux qui sont incapables, il peut les rendre capables. Et qui n'ont pas de tact, il peut leur accorder de la sagesse. Il peut prendre qui il veut et se révéler comme il veut. Ce qui est important, c'est que toute l'honneur et la gloire lui reviennent. Il est dit encore ici, déclaration. Il est permis par la parole de pouvoir faire comme Jésus a répondu à Satan. Il est écrit. Pierre disait que la même bénédiction apostolique est là pour chaque personne que Dieu appellerait. Ça, c'est la parole de Dieu. Pour chaque personne que Dieu appelle. Dieu, la parole, voilée dans une chair humaine, était aussi voilée en Moïse. La présence de Dieu était en lui. Il était parfait avec cette parole en lui. À tel point que il devait voiler son visage. Il était un prophète confirmé qui dévoilait la parole et la portait au peuple. Tu ne dois pas. Dieu devait se voiler dans un homme pour apporter la parole de cette génération. Sinon, la parole aurait même aveuglé les soi-disant appelés à sortir. Nous avons déjà tout de suite cette pensée. La parole, quand elle est révélée, elle devient une lumière brillante. Et cette lumière ne doit pas nous aveugler. Elle doit nous éclairer le chemin. Elle doit nous montrer ce que Dieu a préparé pour nous. Ensuite, déclaration. Voyez-vous, il devait rester voilé. C'est ainsi que Dieu s'est voilé à Moïse. Dieu a donné la parole et Moïse vint et a transmis la parole du Seigneur avec un voile sur son visage. Jéhovah voilé en forme d'un prophète. Dans Hébreux chapitre 1, nous avons lu que Dieu, autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, a parlé par les prophètes. La parole vint aux prophètes. Et ils ont eu part à la nature divine. Et ils ont, pour cette raison, été appelés des dieux parce que la parole de Dieu leur avait été adressée et qu'ils avaient reçue en eux. Qu'est-ce qui doit se passer avec nous aujourd'hui si nous avons reçu la semence incorruptible de la parole de Dieu et si nous la recevons en nous, dans notre cœur, alors nous avons entendu clairement que chaque semence doit produire selon son espèce. Si nous avons semé la parole promise de Dieu, donc comme résultat, il faut que ce soit l'accomplissement de cette promesse, de cette parole promise que nous tenons comme réalité dans nos mains. L'accomplissement, nous entrons en possession de ces choses comme résultat divin de la parole promise. Je ne crois pas que Dieu fait des paroles vaines, des promesses vaines, mais qu'il nous a donné sa parole et il nous a donné une espérance vivante et justifiée pour créer en nous, pour éveiller en nous une attente justifiée et espérance vivante. Nous savons à quoi nous avons à nous attendre. Ensuite, il dit, citation, pensez à cela, il n'y avait qu'un seul Moïse qui avait la parole. Sinon, il n'y avait aucun groupe qui serait descendu au peuple. Ce n'étaient pas les pharisiens, ce n'étaient pas les sadducéens, ou bien une autre secte, ou bien un autre groupe. C'était Moïse. Il n'avait qu'un seul homme. Dieu ne peut pas avoir deux, trois différentes personnes en même temps. Il prend un seul homme. Moïse avait la parole. Et seulement Moïse et Moïse seul, même pas Josué, avait la parole. Personne avait la parole. Et ensuite, il dit, la parole Amen. Si dans ces jours, il y a des hommes qui apparaissent avec toujours de nouvelles révélations, alors nous devons tout simplement dire que Dieu n'a rien oublié. Que tout ce qu'il avait à nous dire et à nous révéler a été dit et a été révélé. L'amen n'était pas assez fort. C'était pas encore assez fort. Car vous savez très exactement combien de nouvelles choses sont jetées, proposées dans le marché religieux. Mais il y a des hommes qui ont reconnu que Dieu a parlé avec nous et que, avec toute la clarté et vérité, il nous a révélé, il fait connaître sa parole et sa volonté. Et nous n'avons pas besoin, nous n'avons rien besoin d'ajouter à cela et non plus rien besoin de retrancher. Nous n'avons qu'une seule demande, c'est de mettre en pratique ce que nous avons reçu, de le recevoir dans la foi et d'être obéissant, marchant avec notre Seigneur, allant de l'avant avec lui, pour que la foi et l'obéissance soient liées à cette révélation divine et que la puissance de Dieu puisse être manifestée en ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Ça aussi, nous l'avons souvent dit. Les paroles d'hommes ne produiront aucun effet, mais la parole de Dieu ne peut pas revenir à vide, sans effet. Elle doit et elle produira l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé et exécutera sa volonté en toi et en moi, dans toute l'Église qui, par la parole, a été appelée à sortir. C'est en elle que la parole deviendra une réalité divine, une réalité vivante, et nous recevrons par cela la confirmation divine. Déclaration. Moïse était un prophète. Il était le prophète particulier de l'heure. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui pourrait contredire cela. Seulement, si nous regardons à notre temps et venons à notre temps, alors il y a beaucoup de voix qui s'adressent à nous. Et nous avons alors le courage de confesser qu'il y eut un homme envoyé de Dieu qui a apparu avec le message de Dieu pour ce temps. Et il a apporté au peuple de Dieu ce message. Sous une confirmation puissante et extraordinaire, qui est et puissante et divine, qui est incomparable avec tout ce qui s'est passé auparavant. Et pour cela, nous sommes très reconnaissants. Si Dieu en avait pris plusieurs personnes, nous serions aussi d'accord avec ses choix et ses décisions. Une fois par an, le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint. Il n'est pas entré pour faire sortir la parole, pour sortir avec la parole, mais le souverain entrait pour offrir le sang. L'arche de l'Alliance restait fermée. Tous devaient attendre jusqu'à que l'agneau de Dieu vienne verser son sang. Et à ce moment-là, le rideau fut déchiré et le chemin au trône de la grâce était ouvert et nous pouvons depuis lors entrer. Ici, en relation avec Israël, la dernière chose, c'était la mort spirituelle, d'avoir rejeté la parole de Dieu, d'avoir désobéi. Remarquez, car Dieu avait averti que personne ne devrait essayer. Moïse est entré et la colonne de feu est descendue. Dieu avait des hommes par lesquels il pouvait parler, il pouvait agir. Et ici, il est écrit encore, cette déclaration, Dieu ne veut pas d'imitateur. Sa parole est révélée à une personne, à un homme. Ça a toujours été ainsi. Dans chaque âge, il y a eu un prophète qui vint avec la parole du Seigneur. À chaque fois, par toutes les saintes écritures, la parole vint toujours à un prophète. Et ça aussi, je les donnais toujours comme un défi. Quand des frères apparaissent avec de nouveaux enseignements et révélations, ma question, c'est de leur demander, est-ce qu'ils sont un prophète? Et bien sûr, ils disent, bien sûr, non. Nous ne sommes pas un prophète, des prophètes. Je ne suis pas un prophète. Et alors, la réponse est toujours, la parole, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle vient. Elle est déjà, dans notre génération, venue au prophète. Et elle l'a déjà été entièrement révélée. On n'a pas besoin de nouvelles révélations. Nous devons, dans ces jours, très particulièrement, faire attention de demeurer dans cette parole pour que nous puissions aussi vivre l'accomplissement de toutes les promesses par la grâce de Dieu. Encore rapidement, ici il est écrit, quelle déclaration, quelle leçon nous avons ici, nous apprenons ici. Chacun voulait être un Moïse. Pensez à cela. Ce que Dathan et tous les autres là-bas disaient dans les déserts. Bon, Moïse, un moment s'il vous plaît. Tu prétends toutes sortes de choses. Tu oses trop de choses. Il y en a aussi d'autres ici que Dieu a appelés. Est-ce que c'était ainsi? Dieu avait appelé Moïse. Dieu lui avait apparu dans le buisson ardent et lui avait adressé la parole et lui a dit, ôte tes sandales, car le sol sur lequel tu te tiens est un sol saint. Moïse voulait malgré tout pas obéir à l'appel. Et il a dit, mais Seigneur, tu sais que je ne sais pas parler. Alors Dieu, le Seigneur, lui a dit, qui est celui qui a créé la bouche et qui a accordé le langage? Et Dieu l'a envoyé simplement avec la parole adressée au peuple autrefois. Et la parole a produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. Elle avait été envoyée. Quelle leçon nous tirons, quelle leçon nous tirons ici? Chacun voulait être un Moïse. Pensez à cela. Je viens de le dire. Il disait, il y a aussi d'autres hommes ici que Dieu a appelés. Ils ne savaient pas, mais ils ne savaient pas, bien sûr, où. Et comment est-ce que cela s'était passé? Et ce que le Seigneur leur avait dit. Et quel mandat ils avaient reçu de lui. Quelle avait été bien précis la commission. Ça, c'était la vérité. Chacun agissait de manière honorable tant qu'il restait dans l'entourage et à la suite. Mais parmi le peuple, lorsque quelqu'un a essayé de s'avancer et de prendre la position de Moïse que Dieu lui avait donnée et pour laquelle il était destiné, prédestiné et ordonné de Dieu, à ce moment-là, le feu tombait du ciel et la terre s'ouvrait et engloutissait à l'endroit même, à l'instant même, instantanément, tous ces gens. Faites attention. Soyez des bons et des vrais chrétiens qui croient la parole. Mais ne vous approchez pas de la colonne de feu. Quelle leçon! Alors que Dieu, au commencement, dans le buisson ardent, avait apparu à Moïse. Dieu était voilé dans une colonne de feu, là-bas caché dans le buisson ardent. De la même manière aussi, comment est-ce qu'il était voilé derrière le rideau, là-bas, sur le trône de la grâce, dans la tente d'assignation, caché dans le lieu très saint. Dieu est toujours voilé. Mais là-bas dehors, Dieu a justifié Moïse par la même colonne de feu devant le peuple. Maintenant, soyez attentifs. Lisez avec moi. Ou bien alors, est-ce que vos pensées sont distraite ici et là. Que celui qui a les oreilles, qu'il entende, écoute. Avec cela, je voudrais ici arrêter avec la lecture. Que celui qui a des oreilles pour entendre, pour écouter, qu'il entende. Dieu est resté le même. Ses voix sont encore aujourd'hui les mêmes. La même parole, le même esprit, le même effet, les mêmes expériences. Tout ce que Dieu, au commencement dans l'Église, a introduit, doit à la fin, dans l'Église restaurée, doit être aussi dans l'Église restaurée à la fin. Et pour cela, il est nécessaire que nous devenions un seul cœur et une seule âme, ayant une seule foi, servant un même Seigneur, ayant un même baptême, que nous n'allions pas dans différentes directions, mais dans une seule direction, et pas la tienne et la mienne, mais la direction divine, que nous puissions d'abord la reconnaître et aller dans cette direction divine, pour que nous puissions ensuite atteindre le but. Mais regardez, Dieu a envoyé un prophète et a appelé tout un peuple à sortir. Dans Osée, il est à lire que Dieu, n'est-ce pas, avait fait sortir le peuple par un prophète et l'a fait entrer par un autre. Dieu est capable de faire toutes choses. Nous nous mettons à sa disposition et nous croyons que il l'achèvera l'œuvre qu'il a commencée. Christ, en tant que souverain sacrificateur, est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire céleste, derrière le voile, dans le lieu très saint, pour apporter le sacrifice, le sang, pardon, de la réconciliation sur l'autel. Et depuis lors, le rideau est déchiré. Le chemin est inauguré, est libre. Le sang de l'agneau est réellement, n'a pas coulé, n'a pas été répandu sur cette terre et n'est pas allé sous le sol. Mais le Seigneur, avec son sang, est entré dans le sanctuaire céleste. Pas une goutte est tombée sur terre. Et quelqu'un me dirait, mais ça m'est égal. Ce que quelqu'un dit, moi je crois chaque parole et le sang parle encore aujourd'hui pour toi et pour moi. Et je crois à la puissance du sang. Encore aujourd'hui, nous pouvons être réconciliés, être purifiés et être sanctifiés. Le pardon par le sang de l'agneau. Dieu parlait par les prophètes et à la fin, il a parlé en Jésus-Christ, son Fils. L'empreinte de sa nature, qui est la forme de Dieu, visible de Dieu. En lui, Dieu n'a pas seulement parlé. En lui, Dieu nous a donné la réponse. C'est la différence entre tous les prophètes et entre la révélation de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tous les prophètes On prophétisait jusqu'à lui dans Luc 16, verset 16. Il est écrit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Et Jean disait, ici, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout ce dont les prophètes avaient parlé, tout. Toutes les choses qu'ils avaient espérées, qu'ils attendaient, elles se sont accomplies en Jésus-Christ notre Seigneur. Il était le résumé, le sommet, il était la réponse. Il est aujourd'hui ta réponse et ma réponse, l'accomplissement de tout ce que Dieu, par les prophètes, a dit. À la fin, encore cette parole que je lisais comme première chose de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Car Dieu qui a ordonné que la lumière soit, que la lumière brille du sein des ténèbres, il est le même qui a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Est-ce que cela est ton témoignage et mon témoignage personnel et ton expérience et mon expérience personnelle? Est-ce que réellement nous pouvons dire le même Dieu qui avait ordonné que la lumière soit, qu'elle brille des ténèbres, c'est le même Dieu qui a fait briller la lumière dans nos cœurs, la lumière de la gloire de Dieu sur la face de Christ pour faire resplendir la connaissance. Nous ne t'attendons plus, nous ne sommes pas en train de chercher à résoudre des énigmes. Non. Il est en nous. Il est la réponse de Dieu. Ton rédempteur, mon rédempteur, en Christ, notre rencontre a commencé avec Dieu, a eu lieu en Christ, notre rencontre a eu lieu avec Dieu. Car Dieu était en Christ et nous étions en lui et c'est en lui que nous avons été réconciliés. Et c'est là que nous avons été pardonnés et que nous avons reçu le salut. Notre Dieu, à lui, soit apporté beaucoup de reconnaissance pour cela, de ce que il nous a vu plein de dans sa grâce et il l'a ramené nos cœurs à la foi pour ne pas que nous soyons des contestateurs, des rebelles, mais que nous puissions nous rendre devant lui et dire, Seigneur, qui suis-je pour te contredire, pour contredire ta parole, pour contester. Non, je te remercie de ce que tu as parlé avec moi. Nous ne pouvons pas encore mesurer cela, mais le jour arrive où nous remercierons le Seigneur de ce qu'il a parlé avec nous et qu'il nous a adressé sa parole et que nous l'avons cru. Ça sert à quelque chose. J'ai une chose que je vais vous dire. Celui qui croit, les choses vont mieux pour lui que ceux qui ne croient pas. Car celui qui croit est sauvé et celui qui ne croit pas sera condamné. Et nous voulons être sauvés. Et sauvé sera personne par une cérémonie ou bien par une pratique religieuse, mais c'est seulement par la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Que sa parole puisse est en nous devenu une réalité vivante. Son esprit puisse venir sur nous et puisse se manifester dans la puissance de sa résurrection pour que tous, dans ces jours, nous puissions faire une expérience glorieuse avec notre Dieu. Le rideau est déchiré. Le chemin est inauguré, est libre. Ta rédemption et ma rédemption a eu lieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et les mystères de la parole de Dieu, de la même manière, ont été faits connaître. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Levons-nous pour la prière. Nous chantons ensemble, tel que je suis, sans rien de moi. Nous courbons nos têtes et fermons nos yeux, ouvrons nos cœurs. Que Dieu, par son esprit et par sa parole, puisse puissamment agir en nous tous. Mes bien-aimés, pour nous, la révélation de sa parole signifie, la révélation de sa parole et de sa volonté signifie pour nous au moins autant que autrefois le peuple d'Israël par Moïse, alors que l'exode et la délivrance devaient avoir lieu. Ce n'était pas seulement une promesse, c'était l'accomplissement, la réalisation de la promesse en ceux pour qui cette promesse avait été donnée. Maintenant, ce sera la même chose. Avant que l'Église épouse soit enlevée, il faut qu'elle soit appelée à sortir, qu'elle soit sortie. Il est dit, sortez du milieu de mon peuple, ne touchez à rien d'impur, alors je vous accueillerai et vous me serez fils et fille et je serai votre Dieu. Dieu appelle par sa parole à sortir. C'est le dernier message qui retentit et qui a lieu. Que cet appel, nous puissions l'écouter. Heureux tous ceux qui ont un cœur ouvert et des oreilles ouvertes et des yeux ouverts pour croire, pour voir et pour entendre, écouter. Nous remarquons à tel point le temps est avancé et nous voyons l'écriture sur le mur, nous voyons le désespoir parmi les peuples, nous voyons les signes des temps. Nous avons reconnu le dernier signe que le Seigneur, n'est-ce pas, a donné à l'Église, comme autrefois du temps de Sodome, et aussi alors que notre Seigneur était sur terre. Nous sommes tant reconnaissants de ce que Dieu ne nous a, de ce qu'il nous a pas oublié, mais qu'il s'est adressé à nous. Et nous voulons lui consacrer notre vie, le croire et lui faire confiance. Il fera toutes choses bien. Acceptez-le. Ce n'est pas l'invention d'un homme, mais c'est la parole de Dieu éternel qui, dans ces jours, doit devenir une réalité et trouvera son accomplissement comme les promesses pour la première venue de Christ ont existé et que tous elles se sont accomplies. C'est ainsi qu'il y a des promesses qui sont en relation avec le retour de Jésus-Christ et elles vont aussi tous s'accomplir. Et elles s'accomplissent aussi. Loué soit le nom du Seigneur. Alléluia. Quel privilège, quelle grâce d'écouter les paroles de Dieu et de les recevoir révélées par le Saint-Esprit. Pendant que nous sommes dans la présence du Seigneur, peut-être qu'il serait, il y aurait encore une personne ou une autre qui voudrait consacrer sa vie à Dieu, qui serait ici, de cette réunion, bien de ce culte. Nous ne voulons pas terminer la réunion sans donner l'occasion que des hommes, que des personnes, n'est-ce pas, expriment leur cri à Dieu. Et mes bien-aimés, Dieu appelle, il avertit, il attire de manière puissante à lui celui qui veut encore résister et contester. Abandonnez votre résistance, votre rébellion. Levez vos mains, abandonnez-vous, rendez-vous à Dieu. Nous voulons ensemble lever les mains et encore une fois chanter tel que je suis, sans rien de moi. Tel que je suis sans rien de moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi. Ô agneau de Dieu, je viens. Je viens. Je viens. Père céleste, dans toute la faiblesse, j'ai essayé d'apporter ta parole. Dieu fidèle, mais ta parole est puissante. Elle est agissante, elle est suffisante pour produire l'effet pour lequel tu l'as envoyé et exécuté tes volontés. Car il est semé avec infirmité, mais ce qui est semé ressuscite plein de force. Je te remercie pour cela. Bien-aimé Sauveur, sauve ceux qui sont perdus, guéris ceux qui sont malades, délivre ceux qui sont liés, bénis ton peuple. Baptise d'esprit et de feu. Viens avec ta présence, Seigneur. Oh, nous te remercions de ce que tu descends parmi nous et que tu es proche de nous et que tu bénis et que tu parles avec nous et que tu nous révèles ta volonté. Je te remercie de tout mon cœur pour cela. Bien-aimé Seigneur, nous t'adorons et louons ton saint nom. Tu t'es révélé à nous et nous te remercions pour cela. Et si la parole que tu as adressée à cette génération et révélée dans cette génération est restée encore cachée et voilée, c'est seulement en ceux qui marchent dans leur propre voie. Mais tous ceux qui marchent sur ton chemin, ils le voient éclairé. Ils ont la lumière au temps du soir, ils ont vu la lumière du temps du soir et elle brille dans les ténèbres. Et je te remercie pour cela. Ô Dieu, accorde-nous la révélation de Jésus-Christ. Ôte le voile pour que nous puissions voir ta gloire sur la face de Christ Jésus par ta grâce. Loué et exalté soit ton saint nom. Alléluia. Alléluia. Ô Seigneur, tu es merveilleux. Ta victoire appartient à ton peuple. Alléluia. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur et de toute mon âme. Tu auras une épouse parole, sans tache et sans ride, lavée dans ton sang, sanctifié dans ta parole, scellé de ton esprit. Ô Seigneur fidèle, que tu puisses te répandre sur ton peuple de manière puissante et sceller ta parole dans le cœur de tes disciples, de tes disciples. Alléluia. Loué et exalté et honneur te soit apporté à ton merveilleux nom. Seigneur Dieu fidèle, encore ce soir, je te demande pour tous ceux qui, pour la première fois, vivent de telles réunions. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils en pensent? Quelles pensées ils ont? Qu'est-ce qui passe par leur cœur, par leur pensée? Oh Dieu fidèle, du premier jusqu'au dernier qui puisse reconnaître que tu à visiter ton peuple dans cette génération et que tu es celui qui parle avec nous. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour cela. Tu es encore celui qui peut conduire les cœurs, diriger les cœurs comme des eaux. Tu enlèves aux puissants sa capture. Alléluia. Loué et exalté soit ton merveilleux nom. Esaïe 49, verset 24. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Cela ne nuira à personne de dire Alléluia et de dire gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur a fait de grandes choses. Nous en sommes heureux et joyeux et nous louons son merveilleux et glorieux et saint nom. Il a envoyé sa parole pour nous guérir, pour nous faire sortir, pour nous enseigner, nous instruire et nous éclairer le chemin. Alléluia. Alléluia. Gloire et honneur. Rome et gloire et adoration. Te soit apporté. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous voulons de tout notre cœur chanter. Alléluia. Alléluia. Je suis sauvé par le sang. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je suis sauvé par son sang. Alléluia, alléluia. Comme je suis heureux. Alléluia, alléluia. Le Sauveur est mien. Alléluia. Quel bonheur d'être sauvé. Amen. Amen.